Bonjour à tous. Bon, moi qui suis fan de The Voice, je suis servi dans ces fauteuils rouges, c'est parfait. Bon, derrière cette bio qui peut faire très hyperactif, on va y revenir un petit peu. En vrai, il y a quand même une logique, une vraie volonté d'impacter le monde. La première question que je voulais vous poser ici, c'est quand est-ce que vous avez eu pour la première fois le sentiment que vous étiez en capacité de changer le monde ? Et puis, je vais la poser un peu plus directement. Qui ici a déjà eu ce sentiment, à un moment, de pouvoir changer le monde un peu autour de lui voilà. Et peut-être pas changer le monde en entier, mais en tout cas, de sentir qu'on a vraiment un impact sur le cours des choses, de ce qui nous entoure. OK. Alors, je vais essayer de vous montrer et vous donner envie de lever plus la main à la fin de cette présentation. Pour moi, la première fois, c'était vers l'âge de 7 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une super émission à la télé le dimanche matin, vous ne connaissiez pas, mais le Club Dorothée, pour ceux qui ont connu ça. Voilà. Il y avait le Dr Klein, et c'était Terre, attention, danger. Tous les dimanches matins, un scientifique venait et montrait un animal en voie d'extinction. Il disait à quel point on voyait toute sa vie. Et à la fin, il y avait toujours une demande. Si vous voulez sauver les animaux en danger, envoyez une lettre. Voilà le format, etc., ce qu'il faut recopier. Et envoyez-nous une lettre, c'est une sorte de pétition en courrier. Et donc moi, forcément, je veux sauver les animaux, j'écris cette lettre et j'en envoie une. Et puis je me dis, j'ai envie de faire plus. Alors 7 ans, j'ai presque zéro argent de poche, etc., je ne sais pas comment en faire. Je me dis, je vais créer un petit journal. Je reprends un truc, je recopie des articles avec la machine à écrire de mes parents, et je vais voir ma voisine, et je lui vends pour 3 francs à l'époque. Ma petite feuille. Et avec ces 3 francs, j'achète une carte postale et un timbre et je renvoie une lettre. Et rebelote, je continue comme ça, à tel point qu'un jour, je reçois une lettre de TF1 qui me dit « Merci beaucoup pour vos lettres, c'est super utile, mais s'il vous plaît, arrêtez de nous en envoyer. Voilà. » Et c'est là où je me suis dit, en vrai, si on va au bout de l'effort, on peut avoir un impact parce que je me suis dit, là, il y a eu un feedback positif sur un effort que j'avais fait pour essayer d'avoir un impact. Je me dis, OK, ça marche. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'en fait, tout le but, si vous devez partir avec une chose, c'est vraiment ce sentiment qu'on est en capacité de changer le monde, d'avoir un impact, et que cette capacité-là, c'est un muscle qui se travaille. C'est un muscle qui se travaille, et mon parcours, finalement, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui a toujours été porté vers cet objectif. Comment est-ce que j'augmente ma capacité à avoir un impact. Alors, si je reviens rapidement sur le parcours, en effet, moi, je viens à l'origine, je viens d'un petit village, 3600 habitants, en pleine campagne, et dans une famille pauvre. En fait, je viens d'un village, comme on dit, où on n'attend pas grand-chose de nous. Mais j'avais, moi, quand même ce feu, cette envie de sortir de là. Je vais au lycée, dans un lycée dans le sud de l'Essonne, assez compliqué, où le professeur de terminale nous dit « Ne vous faites pas d'illusions, vous ne ferez sûrement pas mieux que vos parents. » Je ne sais pas si vous avez eu parfois ce discours aussi. Moi, sur le coup, je l'ai pris un peu en mode je vais essayer de montrer que les statistiques ont tort. J'aime bien ça, j'aime bien ce petit challenge. Toujours montrer que les statistiques ont tort, c'est hyper passionnant à faire un peu comme bataille. Et en même temps, c'est ce même prof qui me dit « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et puis moi, j'avais vu à la télé un truc, il y avait Capital qui passait, et ça avait un truc sur les écoles de commerce, ça parlait de Stanford, de Harvard. Je dis « Ah, j'ai vu un truc, je me dis ça, j'aimerais bien le faire. » Je dis « Ouais, ok. » Si tu veux faire ça, sache qu'il y a des bonnes écoles de commerce en France. Par contre, il faut faire une prépa. Je découvre complètement la prépa en terminale. Ce qui fait que je pense qu'en effet, souvent, l'un des premiers plafonds qu'il y a à changer de niveau social, c'est souvent l'information même. Et donc, je dois énormément à ce professeur-là qui s'est penché sur mon cas et qui m'a dit « En fait, il faudrait que tu fasses une classe prépa. » Et j'ai dû être sur un lycée de 2500 personnes. On devait être deux à aller en prépa. Mais en tout cas, voilà, Je fais ma prépa. Vous vous en sortez pour beaucoup il n'y a pas longtemps. Alors moi, c'est une période que j'ai adorée. Je sais pas. J'ai eu l'impression que c'est un moment où on a commencé à m'ouvrir un accès à un monde auquel je n'avais pas du tout. J'ai eu de la connaissance, d'apprendre et tout. Et je faisais voilà, tous les matins, on me levait à 5h40 pour prendre le RER, aller à Paris. On n'avait pas l'argent pour en fait prendre un petit pied à terre à Paris. Donc 5h40 tous les matins, retour le soir, 4 heures de train par jour. Mais mine de rien, on y arrive. En fait, c'est pour dire que. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'en fait, je veux déconstruire quand même certaines idées qu'on a sur les questions de succès, de réussite et tout. En fait, là, que sur le papier, comme ça, on pourrait dire, bah, voilà, génial, il a réussi son truc et tout. En fait, ça a quand même été énormément de hauts et des bas. C'est toujours lié, si j'en suis là, c'est beaucoup lié aux personnes qu'on a rencontrées. Notre entourage est hyper important. Et puis ensuite, voilà, il y a quand même des moments où des énormes efforts à fournir. Et surtout dans la durée. Bref, en tout cas, je fais ce parcours-là. Il y avait trois choses quand même qui m'animaient déjà à l'époque. C'était un, l'entrepreneuriat. Je voulais gagner de l'argent en faisant de l'entrepreneuriat. Deux, j'ai grandi sur scène aussi, et donc je voulais faire quelque chose. Enfin, c'est pas que je voulais faire quelque chose, mais j'avais quand même cet ADN de créer des rassemblements, des concerts, etc. Mais je m'étais jamais dit que j'irais dans l'événementiel. Et trois, une volonté quand même d'avoir un impact. Mine de rien, même avec ces trois choses, le système, en quelque sorte, et moi, ma projection et comment je vivais les choses, a fait qu'après l'école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon, je suis sorti à l'inspection générale. Donc rien à voir. J'y suis allé parce qu'en effet, au début, ce qui me drivait, c'était de dire, en fait, je veux gagner de l'argent, je veux encore continuer à monter dans cette hiérarchie sociale, etc. Je fais 3 ans d'inspection générale, c'était hyper intéressant parce que je me retrouve à faire des trucs contre la lutte anti-blanchiment, etc. Mais je m'y projette pas. Je lance une première boîte dans le jeu en ligne, toujours en me disant là, il y a une opportunité et j'y vais. 3 ans là-dedans, c'est extrêmement dur. Je suis seul solopreneur à ce moment-là. C'est extrêmement dur de monter une boîte tout seul. Moi, je vous conseille très clairement, si vous voulez monter une boîte, de toujours trouver avant tout au moins une deuxième personne. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça veut dire que vous n'êtes pas complètement fou et que vous avez déjà réussi à convaincre une personne de vous suivre dans l'aventure. C'est déjà pas mal. Et puis deuxièmement, en fait, le poids de l'entrepreneuriat, il est extrêmement lourd en soi. Et le partager, c'est sûrement ce qui permet d'assurer déjà une santé personnelle dans l'aventure et puis la pérennité du projet. Mais quand même, mine de rien, au bout de 3 ans, même si j'apprends beaucoup de choses comme entrepreneur, à lever des fonds, trouver des clients, eh bien c'est un échec. Et je termine ces deux premières parties de ma vie, pro en gros, mes deux premières épreuves ou étapes, avec un sentiment d'échec, en fait. Je regarde en arrière, je me dis, bah, en fait, je me faisais une vision de ce que pouvait être le monde, etc. Et je me suis mis des KPIs qui n'étaient peut-être pas les bons, en effet. Et là, tout ça, il y a toute une phase de burn-out liée justement au fait d'être solopreneur et tout. Donc, grande phase de reconstruction. On pourrait y venir après si vous avez des questions, etc. Hein. Mais là, je décide de faire un vrai break et de faire un troisième cycle. Je fais un MBA qui me permet à l'INSEAD de comprendre quelles étaient un peu les erreurs que j'ai pu faire avant. Et ce sont surtout des erreurs par rapport à soi. Moi, j'ai essayé au début, pendant longtemps, d'aller là où il y avait de l'opportunité et pas forcément de la passion et de l'impact. Quelque chose qui. Je m'étais dit, en fait, maintenant, la prochaine étape, je sois quelque chose dans lequel je suis prêt à consacrer 5, 10, 15 années de ma vie. Et même s'il n'y a pas de ROI financier, ben moi, mon temps, qui est peut-être la ressource la plus précieuse qu'on a, je l'aurais mise à un endroit qui aura compté. Et puis après, on apprend aussi beaucoup de choses sur le fait de ne pas essayer de copier les autres. On a tous une singularité. Et notre parcours nourrit cette singularité. Et ce qui va faire qu'on soit bon, et même excellent, c'est d'essayer d'être vraiment très bon là où on est bon. Et pas forcément d'être correct partout. Le correct partout, il n'y a pas d'extraordinaire qui peut sortir de là. Si vous voulez avoir justement un impact fort, concentrez-vous sur votre différence, votre singularité, vous investissez là-dessus Et vous vous entourez pour vos points de faiblesse. Ça sert à ça, les entourages aussi. C'est, en fait, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus structurées que moi. Donc elles sont, voilà, moi, j'ai trouvé des personnes qui sont beaucoup plus structurées que moi. Moi, à l'inverse, ma force, c'est de pouvoir naviguer dans l'incertitude. Et on se rend compte qu'il y a une vraie synergie par rapport à ça. Et si moi, j'essaye d'être structuré, je ne suis vraiment pas bon, et si la personne essaye de naviguer dans l'incertitude, bah pareil, ce ne sera pas forcément le truc. Misez sur vos forces. Et en fait, c'est en sortant de tout ça, avec cette envie aussi, dans l'intervalle, je lance les TEDx de l'INSEAD et je commence à rencontrer des personnes avec des idées incroyables. Je me dis, ok, je commence à avoir pas mal de briques dans mon puzzle, vraiment une envie d'avoir un impact, je suis inspiré par le côté humaniste de ces penseurs, de TED. Mais je me dis, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe après ? Il y a une idée, mais so what ? Ce so what m'a beaucoup fait réfléchir en me disant, aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de solutions concrètes. Si on veut changer le monde, ça passe toujours par le concret. Et donc, essayons de trouver ces personnes-là qui font du concret. Et je tombe sur une théorie aussi qui est celle de l'écosystème. Théorie qui est assez récente. Vous connaissez le terme d'écosystème, j'imagine. Ouais, c'est bon ? Le terme d'écosystème, ça vient de la biologie à l'origine. Et c'est un terme qui est récent, années 80-90. On se rend compte, un écosystème, en fait, c'est un organisme, ou plutôt une communauté, qui arrive à vivre, à s'auto-entretenir par les services qu'elle se porte les uns et les autres, le soutien qu'elle se porte. Et cette biologie, cette question de la biologie et de communauté, finalement, c'est celle qui a été reprise un petit peu pour l'écosystème entrepreneurial. Mais moi, ce que j'adore, c'est regarder dans l'histoire. J'adore l'histoire. Cette question d'écosystème, enfin l'écosystème, on se rend compte que c'est quelque chose qui est clé pour changer le monde. On prend Christophe Colomb. Ok, Christophe Colomb, on a l'image de ce navigateur solitaire un jour qui prend ses trois bateaux et qui se dit on va traverser l'Atlantique pour aller aux Indes. En fait, c'était beaucoup plus que ça. Christophe Colomb n'était que le reflet d'un des navigateurs d'un écosystème énorme. Pendant 50 ans autour de Christophe Colomb, il y a vraiment un financement énorme, des ambitions énormes sur l'exploration maritime de manière large. Et c'est parce qu'il y avait cet écosystème-là, avec plein d'autres navigateurs, des scientifiques, des personnes qui ont appris à comment est-ce qu'on construit des meilleurs bateaux, etc., qu'on a réussi à le faire. Il y a toujours un écosystème dans les grands changements. Et la tech, c'est la même chose. Quelqu'un qui serait venu avec l'ordinateur, ça n'aurait jamais marché s'il n'y avait pas l'écosystème complet autour. Donc voilà, pensons toujours écosystème. Et lorsqu'on veut changer le monde, et notamment là, donc 2015, je me dis, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui essayent de faire des choses incroyables, de dépolluer les océans, d'aider les réfugiés, etc. Et je me dis, en fait, tous se sentent seuls. Et puis moi, si je veux faire la même chose qu'eux, c'était vraiment le genre d'entrepreneuriat que je voulais faire, je vais me sentir seul, je ne sais pas comment trouver mes financeurs, les incubateurs, etc. L'écosystème de l'impact n'existait pas vraiment à l'époque, 2015. Donc l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va créer un écosystème ? Et donc on va rassembler, et ça, petit élément méthodologique, un écosystème entrepreneurial, c'est trois choses. Il y a un premier cercle qui est celui des rebelles. Un écosystème commence toujours par des rebelles. Les rebelles, ce sont les entrepreneurs qui viennent avec des nouvelles idées. On a un deuxième cercle qui est celui des financeurs. Et puis le troisième, celui des talents. Et c'est seulement quand les trois cercles se rencontrent qu'au milieu, on a un vrai écosystème. Et donc voilà, l'idée, c'était de rassembler ces trois acteurs. Et si on regarde tous les grands secteurs, il y a toujours des grands événements qui existent. Le CES à Las Vegas pour la technologie, le Bourget pour l'aéronautique, le Festival de Cannes pour le cinéma, ils jouent un rôle essentiel. Donc, juste avec cette idée, je commence à me dire, en fait, ce serait cool de créer le plus grand événement mondial de l'impact. Bon, je ne connais personne dans l'impact, pas personne dans l'événementiel, mais pour autant, ce n'est pas un frein. En fait, je me dis, on y va, on fonce. Et là, je commence à en parler autour de moi. Je convainc ma femme, ou plutôt, je lui parle du projet parce qu'elle se convainc elle-même après du projet. Mais je lui parle du projet. Là, on a notre premier enfant qui arrive. J'ai pas de taf. On décide de partir en road trip 40 jours avec notre enfant qui a 40 jours. on part en Espagne, etc. Et pendant ces 40 jours, on commence à parler du projet que j'avais déjà mûri pendant à peu près un an. Et là, on se dit, allez, go, on y va, on se lance. On se lance avec des hauts et des bas, parce qu'en fait, franchement, on arrive à créer un super beau contenu avec des super innovateurs, des super investisseurs qui commencent à venir, beaucoup d'intérêt, mais personne qui veut mettre de l'argent dessus. On met notre argent à nous, tout ce qu'on peut, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on loue Station F. Station F, c'est le grand incubateur de start-up. On y va avec nos économies en se disant, voilà, on ne sait pas si ça a marché, mais on loue Station F, on prend une prise de risque maximale. Et on se retrouve à 3 mois de l'événement, avec notre garçon justement qui est à l'hôpital, 0 euros de financement, on a mis toutes nos économies. Et là, c'est la première fois où on se dit, c'est peut-être un peu fou, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et à peu près à ce moment-là, on pensait être allé quasiment au bout du chemin. Et non, en fait, il se passe un truc. Il y a Trump qui sort des accords de Paris pour la première fois. Réponse d'Emmanuel Macron, « Make our planet great again ». Et la vision qu'on portait commence à rentrer dans un temps médiatique et un peu politique. Et des partenaires qui nous avaient dit « ça ne nous intéresse pas » reviennent en se disant « ah, en fait, c'est intéressant ce que vous faites », etc. Et en l'espace de quelques semaines, pour un événement en septembre, donc en juillet, on arrive à trouver le financement et on arrive à délivrer sur une première édition à 2000 participants. C'est la première fois qu'on a un événement, un événement qui rassemble tous les acteurs de l'impact, 2000 participants sur scène, dans l'événement. Et puis après, on continue, on se dit, il faut accélérer. 6000 participants la deuxième année. Et puis là, on a la chance de rencontrer les équipes du Grand Palais à qui on raconte une histoire clé. C'est-à-dire, il y a 150 ans, il y avait la révolution industrielle. Et pour accélérer la révolution industrielle, on avait créé à l'époque des super plateformes qui étaient les expos universelles. Ça faisait rêver sur le progrès de l'époque. Et bien, aujourd'hui, c'est une nouvelle révolution qu'on est en train de vivre, qui est environnementale et sociale. Et donc, on veut venir ici, dans le Grand Palais qui a été créé pour l'Expo 1900, et recréer la première exposition universelle des solutions pour la planète. Et là, ils nous disent go, on se retrouve à faire un x7 en un an en termes d'espace, challenge entrepreneurial énorme, avec encore des hauts et des bas, puisque franchement, on se retrouve à un moment encore à dire, ça se trouve, l'aventure s'arrête là. Coup du sort, c'est un banquier qui allait partir, notre banquier qui allait changer de poste, il dit... Je vais vous faire un prêt du maximum que je peux vous faire sans avoir à en référer à ma hiérarchie parce que ça prendrait trop de temps. Donc quand même hyper sympa le mec. Après, on lui a dit que grâce à ça, il a quand même sauvé le projet parce qu'on n'aurait pas pu financer les échéances qu'on avait. Donc encore une fois, il y a de la chance qu'il s'invite à ça. Et là, on arrive à faire 28 000 participants pour cette troisième édition. Et on devient depuis le plus grand événement mondial des solutions pour la planète. Donc je passe après les années un peu Covid, etc. Forcément, c'est des challenges, mais on continue sur notre lancée. On fait preuve de résilience, on continue à grandir. C'est le résultat d'une aventure entrepreneuriale, d'une équipe qui a grandi avec beaucoup de challenges en route. Mais mine de rien, on s'est toujours... Et donc, c'est pour donner quelques chiffres, c'est 40 000 participants pendant 3 jours, c'est 1 000 solutions qu'on présente chaque année qui vont sur l'économie circulaire, sur les villes durables, sur une meilleure éducation, sur l'énergie, sur les océans, plein de choses. C'est 1 500 investisseurs qui viennent. C'est 140 pays qui sont présentés. Donc, voilà, c'est vraiment un gros bébé qui sort chaque année. Et pourquoi on le fait chaque année ? Parce qu'on considère que c'est quelque chose comme ça pourrait être fait de manière plus espacée, mais non, on est sur des urgences, des enjeux qui font qu'on ne doit rien lâcher, il faut qu'on avance vite sur tout ça. Fort de ce sommet, très vite, et c'est là où je dis aussi c'est un muscle qui se travaille, c'est que on s'est posé la question de comment est-ce qu'on utilise ce qu'on a pour continuer à renforcer notre impact. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à développer plein de choses. On parlait du classement des écoles. Il y a 5 ans, on a lancé le premier classement des écoles pour savoir lesquelles préparent le mieux à la transition écologique et sociale. Voilà, c'est bravo à l'ESSEC, parce que ça fait 3 ans que vous trustez en effet ce classement. Aujourd'hui, c'est 1 million d'étudiants qui ont été impactés par ce classement-là. En fait, on sait que les programmes ont, ce classement a contribué à faire évoluer les programmes, etc. Et donc, ça touche à peu près 1 million de personnes depuis sa création. On a lancé aussi, on a créé l'année dernière, en 2024, on a accueilli le premier, enfin, on a accueilli et organisé, c'était une des plus dures choses à faire de ma vie d'entrepreneur, le premier débat télévisé politique dédié à la transition écologique et sociale. On avait rassemblé pour les européennes les 7 têtes de liste. Ça a été diffusé à la télé et faire rassembler tout le monde pour qu'on puisse faire ça pour une première fois. Disant, voilà, on crée un précédent et peut-être que pour 2027, il y aura maintenant forcément un débat sur ces questions-là. Voilà, on réfléchit toujours à comment est-ce qu'on peut faire plus et comment est-ce que ce qu'on vient faire vient avoir un effet, on va dire, en arborescence avec des conséquences au-delà du concept même. Voilà, et puis je vais peut-être finir là-dessus, avant de prendre les questions, on pourrait parler pendant longtemps. C'est qu'en fait, là, on voit quelque chose de gros, mais on va dire, ce qui détermine souvent le succès d'un projet ou pas, bon, c'est deux choses, on y reviendra, mais je pense que c'est le fait de travailler les conditions pour que ça se passe bien, les conditions du succès. Mais surtout, c'est une question de persévérance dans le petit effort. En fait, ce n'est pas un jour où on dit, vas-y, on va soulever une énorme masse de travail en un jour et on va changer quelque chose. En fait, non, c'est les petits efforts. Et là, je vais reprendre quelque chose qui, dans ma vie d'entrepreneur, au tout début, j'ai lu un livre sur Bernard Tapie. Il racontait un truc qui m'avait marqué. En fait, je me rappelle de rien d'autre du bouquin sauf ça. Il disait en fait l'importance de faire le petit effort en plus. À la fin de la journée, de se dire, ok, est-ce que je peux faire encore un tout petit effort? Un pas de plus. Juste un pas. Et je me dis, ouais, ok, ça, je suis capable de le faire. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, je me dis, ok, j'ai fait quand même une belle journée, mais est-ce que je peux faire un tout petit pas de plus? Pas deux, parce que c'est trop crevant, il faut faire attention à soi. Juste un. Et je me suis appliqué ça, en fait, dans la durée. Et je continue de le faire. Et il y a quelques temps, je me suis dit, ok, en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça fonctionne. Et c'est vrai que si on fait le calcul, je me suis dit, faire ce pas en plus sur la durée d'une vie, eh bien, c'est exactement la différence qu'il peut y avoir entre cheminer et s'arrêter au camp de base de l'Everest ou son sommet. Il y a 21 km entre les deux. Et si chaque jour, on fait un mètre de plus, eh bien, c'est la différence entre arriver au camp de base ou arriver au sommet de l'Everest. Voilà, donc je vais m'arrêter sur cette pensée déjà ici et je vais prendre vos questions.
Merci Santiago. Deux mots peut-être, la date pour le prochain summit peut-être.
Oui, le prochain sommet sera le 30-31 mars et 1er avril.
2026. Tu peux aussi partager, parce qu'il y a peut-être entre notre étudiants quelques-uns qui sortent dans les autres pays ou vont dans les autres pays, vous avez des nouveaux hubs et des... si tu peux juste partager géographiquement.
Ça fait. Donc ChangeNow, on a aussi lancé, alors je vais reprendre plutôt dans ce sens-là, on m'a posé la question de comment est-ce que vous pouvez faire pour scaler votre impact. C'est très bien, on a un gros impact, mais comment est-ce que vous faites pour que ça... aille au-delà de ce que nous, humainement, on peut faire. Et donc, on s'est dit, on va créer les conditions pour que les différents écosystèmes de l'impact puissent prendre le relais. Ce n'est pas nous qui allons driver ça, mais c'est des personnes sur le terrain qui disent, moi aussi, je peux faire ça. Et je vais faire des mini-ChangeNow au niveau local. Donc, on a créé une sorte de licence des personnes qui disent, moi, je veux créer un ChangeNow Hub localement. On a reçu déjà des dizaines de candidatures. On les sélectionne très bien parce qu'on veut que ce soit des personnes avec qui il y ait une vraie affinité de mission. Mais du coup, là, il y a trois hubs qui sont en train de s'organiser. Un à Bangalore, un à Tunis et un à Sao Paulo. Voilà, l'idée, c'est qu'après, ça essaime partout, mais que les écosystèmes entrepreneuriaux puissent émerger un peu partout.
Super, merci beaucoup. Alors, je commence avec quelques questions. Et comme je vous ai expliqué, on va... vous avez la possibilité de prendre la parole dans quelques minutes. La première question, c'était en observant les crises mondiales actuelles, alors changement climatique, oui, inégalités socio-économiques, disruption numérique, etc., etc. À ton avis, quels sont les changements qui ne peuvent pas attendre et pourquoi? Est-ce qu'il y a une priorité que tu vois dans les projets ?
Alors, on est dans un monde, en effet, on va dire qui est en crise avec un S, je dirais, mais c'est, qui est surtout en transition. Il y a un philosophe italien qui s'appelle Gramsci, qui montrait en fait une courbe en disant, voilà, si on a un monde qui est en train de disparaître et un autre qui est en train de se créer, qu'on est dans l'entre-deux, en fait, c'est justement dans ce clair-obscur qu'apparaissent un peu les monstres. Donc on est un peu dans cette période-là où on est vraiment dans un brouillard assez énorme. Et pour autant, déjà, la première chose que je dirais, c'est que c'est, pour moi, c'est plus un appel à la volonté de faire face à ça plutôt qu'au défaitisme, la première chose. Et puis en fait, voilà, il se passe tellement de choses en même temps. On parle de crise climatique et celle-là, on peut pas du tout la laisser de côté. Il y a les crises géopolitiques qui se font aussi. Je pense qu'une des erreurs à avoir, justement, ou à faire, qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire on va prioriser une seule. Quelle est juste la priorité ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prend l'exemple de la question de la défense. On est dans un monde qui, en effet, la guerre se revient assez fortement. Et si on doit demander aux personnes ou à un pays ou à un dirigeant, est-ce que tu préfères sauver ton pays ou sauver la planète ? Sa réponse, ça va être sauver le pays. Or, on ne peut pas se permettre de ne sauver que les pays si on ne sauve pas la planète, en fait. Mais voilà, en fait, c'est si on met les choses en opposition, on fait des choix qui laissent de côté toutes les autres conséquences. Il faut qu'on arrive justement à avoir une vision beaucoup plus holistique. Donc pour moi, il faut attaquer les choses, les différentes choses en même temps. Et peut-être l'élément de réponse plus intelligent que je pourrais donner à cette réponse, c'est-à-dire il y a des causes qui ont des co-bénéfices sur les différentes crises. Moi, je vais vous parler de la désinformation. Aujourd'hui, pour moi, la question de la désinformation est les clés. Tant qu'on n'arrive pas à régler le problème de la désinformation, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On ne peut plus faire de politique. On ne peut plus faire de mouvements collectifs qui soient intelligents. En fait, à partir de ce moment-là, on crée une sorte de paralysie. Travailler sur cette question va nous redonner plus de force pour les démocraties, plus de force pour les visions d'avenir, qu'elle soit d'un point de vue de sécurité, d'environnement, de choix sociétaux. Pour moi, ça commence par la première bataille, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça va réduire la polarisation. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui cherche à créer de la polarité parce que c'est rentable. Et voilà, donc pour moi, il y a vraiment un vrai enjeu sur cette question-là.
C'est un petit peu aussi l'écosystème, un autre écosystème que tu as parlé, non ?
Oui, tout à fait. Et justement, en parlant de ça, y a un écosystème qui est en train de se mettre en place au niveau international. Pour la première fois, là, la COP30 au Brésil, ce sera la première fois que le sujet de la désinformation climatique sera traité. Déjà, grosse avancée. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des acteurs internationaux et l'idée par le Brésil et la France qui se sont dit, en fait, c'est un enjeu majeur. Juste comme ça. Et pourquoi ça vient du Brésil ? C'est parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la plupart des médias brésiliens, où il y a pas mal de désinformation climatique, pour le coup, étaient détenus par les grands acteurs de l'agrobusiness qui sont les premiers à déforester. Et en fait, ils ont vu vraiment qu'il y avait ils étaient bloqués au niveau national et donc il fallait qu'il y ait quelque chose, un poids international pour pouvoir changer ça. Donc voilà, donc les lois, là, en tout cas, là, on prend conscience de ça. Il y a des acteurs en France comme Cota Climat, mais il y en a plein d'autres à l'international qui sont en train de se mettre en place. Donc oui, il faut accompagner cet écosystème-là et nous, on va essayer de le faire.
Tu as déjà parlé un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais de nouveau, peut-être la question, quel rôle nos étudiants devraient-ils jouer dans la promotion d'un changement sociétal, environnemental urgent ? Un conseil ? Deux, trois mots.
Non, en fait, je vais dire un truc qui est un tout petit peu galvaudé, mais qui, moi, m'a beaucoup formé. Je vais citer Oncle Ben de Spider-Man. qui a ouais, culture populaire un peu comme ça. Mais il disait en fait, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Voilà. Classique. Mais c'est vrai que moi, ça m'a formé quelque part cette idée-là. C'est-à-dire que moi, je me considère avoir eu la chance, par rapport à plein de monde dans mon entourage, d'accéder à un niveau de compétences, d'enseignement, de responsabilité, d'influence que beaucoup de monde n'ont pas eu. Et donc, je me sens en effet, moi, cette casquette de responsabilité. Je pense que voilà, agir avec responsabilité, c'est clé. C'est clé parce que, franchement, on se sent bien et on se sent vivre quand on vit avec responsabilité. Sinon, on est vraiment en mode spectateur. Je vais faire une petite, enfin, un petit, comment dire, une petite boucle là-dessus. Mais moi, je considère qu'on s'est pas mal endormi sur les dernières quelques décennies ou années. Je parle de nous, mais enfin nous, société occidentale, Europe et tout. On s'est un peu endormi face, on va dire, à l'histoire. On a considéré, en effet, à un moment, on avait parlé de la fin de l'histoire. On s'était dit, voilà, les frontières sont fixes, etc. C'est la fin de l'histoire. On a cru à ça. Et on est rentré, en fait, on a préféré le confort, quelque part, de consommateurs de notre société. On est dans une société qui est stable, qui est confortable. Et on a oublié qu'en fait, on était surtout plus acteurs. On peut continuer à changer cette société-là. Et ceux qui s'en rendent compte, finalement, sont surtout eux, ceux qui aujourd'hui font bouger le monde d'un point de vue géopolitique. Eux, ils se sont rendus compte que non, en fait, l'histoire, elle n'est pas finie. On l'a fait au quotidien et on a le pouvoir de faire un peu ce qu'on veut. Et donc, voilà, moi, je pense qu'on s'est un peu endormi par rapport à ça. Et donc, agir avec responsabilité, c'est clé.
Tu as déjà parlé, d'une perspective, approche holistique, écosystème. Comment, en tant qu'enseignant, pouvons-nous aider nos étudiants à penser de manière plus systématique, et que peuvent-ils faire eux-mêmes pour développer une telle pensée systémique?
Alors, je dirais que je vais retravailler un tout petit peu la question. Parce qu'en fait, je pense que cette question de qu'est-ce que l'ESSEC peut faire pour mieux vous enseigner ces pensées systémiques, en fait, je pense qu'elle est aussi pour vous, cette question, quelque part. C'est-à-dire que vous allez expérimenter le parcours. Il y a peut-être des choses où vous allez vous dire, l'ESSEC pourrait faire un peu mieux. Je pense que ça, il faut que vous remontiez les infos. Okay, ça, c'est le premier truc. Après, moi, je dirais, il y a des choses que j'ai apprises par moi-même en dehors des cursus, et je me dis, et qui sont clés dans cette capacité à transformer le monde. Et je me dis, il y a peut-être une capacité à le diffuser davantage. C'est cette question de vision stratégique. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? Bon, nous, on en parle un peu, voilà, en école de commerce, on parle un peu de stratégie, mais sans en comprendre peut-être complètement la beauté, je dirais. Moi, j'ai découvert la stratégie plus tard en lisant Napoléon. Alors, franchement, il y a des moments de stratégie énormes dans ce qu'il a fait. Mais je vais vous parler d'un moment très précis, quand il n'était même pas encore général, il était juste caporal Bonaparte. Il y avait le siège de Toulon. Alors, Toulon était assiégé, Toulon était occupé par les Anglais, assiégé par les Français. Et il y avait plein de forts qui faisaient le tour de Toulon, qui étaient détenus par les Anglais, et donc incapacité de reprendre Toulon et sa rade avec tous ses bateaux. Et pendant des mois, la France bute contre ce rempart. Et Bonaparte arrive là, on lui donne le commandement d'une petite équipe d'artilleurs, donc les canons et tout. Et là, il a un peu le déclic de la strat. Il dit, en fait, on a beau aller partout, et enfin, si on répartit notre force d'attaque partout, ça ne marche pas. Il y a un point qui est faible. Enfin, ce n'est pas qu'il soit faible, c'est qu'il y a un point. Si on prend ce point-là dans le dispositif, c'est un point qui est un peu plus élevé. On arrive par effet domino à reprendre l'ensemble des autres forts et ainsi que on peut tirer sur les bateaux et la rade sera obligée de partir. Et juste si on gagne ce fort-là, on gagne tout Toulon. Et là, je me dis, waouh, c'est vrai que c'est une belle idée stratégique, en fait. Et en fait, ils ont concentré en une nuit l'ensemble des forces des armées juste sur un fort. Ils l'ont eu, et au lendemain, à l'aube, tous les bateaux étaient obligés de partir de la rade de Toulon. Donc moi, c'est là où je me suis dit, ok, en fait, c'est ça la strat. La stratégie, c'est comment est-ce qu'on fait un plan qui, avec les ressources limitées qu'on a, va maximiser les chances de réussite. Et je dis maximiser les chances de réussite, pas parce qu'en fait, c'est pas on a la bonne strat, ça gagne à tous les coups. En fait, la vie, c'est un jeu de probabilité. On a des chances de réussir des choses, des chances de ne pas y réussir. Mais si on met les bonnes stratégies, si on travaille aux bonnes conditions de succès, on augmente nos chances de probabilité. Et je pense que ça, c'est un vrai apport de pensée systémique, quelque part.
Juste pour acheter pour les étudiants, je ne sais pas si je parle pour tout le monde comme professeur, mais tu as dit, voilà, donner du feedback. Mais ne donnez pas le feedback ou ce que vous voulez changer, voire changer, après les cours. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, faites ça au début. Alors moi, personnellement, ou beaucoup des autres collègues, on est flexible. On peut changer les choses, on peut ajouter des idées que vous avez pour discuter dans les cours. Alors, ça, c'est juste pour ajouter, parce que souvent, on a des choses après, et ça, là, c'est un petit peu trop tard pour changer les choses. Au-delà de la pensée systémique, quelles compétences sont les plus cruciales pour créer un avenir plus durable et régénératif? Et je pense, Vincenzo, il a déjà parlé un petit peu avec vous, mais ça, c'est la grande question pour nous. Quelles sont les compétences en 5 ans, 10 ans, avec tous les changements qu'on voit et les développements?
Alors, il y a des choses qui sont vraiment liées à l'interpersonnel, je dirais, qui sont clés. Ça, c'était un des profs, pareil, qui avait dit quelque chose. Il dit « Everything is about money and people ». Donc, il faut être bon, il faut connaître la finance, mais il faut aussi connaître tout le côté plus humain. Parce qu'en fait, si on ne maîtrise pas non plus le côté, pas maîtriser, mais si on ne développe pas nos compétences interpersonnelles et humaines, on n'y arrivera pas. Et donc, pour moi, il y a vraiment une question d'empathie. Et je dirais que ça, c'est clé. Je vais faire un petit temps sur l'empathie. Parce qu'en fait, l'empathie, elle est sur 3 domaines. Tout le monde voit ce que c'est l'empathie ou pas? Moi, je me suis fait toquer, je me suis pris une énorme zéro une fois en prépa sur les entretiens de personnalité. Je me prends un zéro et je comprends, ils disent oui, en fait, vous avez démontré aucune empathie. Ah bon? Ouais. Mais ils disent non, et en fait, l'empathie et la sympathie, c'est 2 choses très différentes. Et donc, je suis parti, en fait, sans savoir ce qu'était l'empathie, j'ai fait mes recherches et tout, et en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai compris ce que c'était l'empathie. Et l'empathie, c'est finalement développer la compréhension du point de vue de l'autre. Ce n'est pas forcément être d'accord avec l'autre, c'est comprendre son point de vue et se dire, ok, je comprends d'où tu parles, je comprends pourquoi est-ce que ça peut être dur pour toi. Mine de rien, moi, ce que j'ai à te dire, c'est ça. Mais je te comprends. C'est développer cette compréhension. Je pense qu'elle est clé. Aujourd'hui, sans cette compréhension de l'autre, il n'y a plus de dialogue. Et là, je parlais de la polarisation, etc. S'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de travail ensemble. S'il n'y a plus de travail ensemble, il n'y a plus de changement. Donc l'empathie. Le deuxième volet de l'empathie, c'est l'empathie par rapport au reste du vivant. Il faut développer aussi son empathie, en effet, par rapport aux espèces, à la nature, etc. C'est clé parce qu'on a eu tendance à un moment à vraiment faire une distinction par rapport à cette nature. Et puis troisième, fondamental, c'est l'empathie par rapport à soi. Je pense qu'on vit dans un monde où on est trop dur avec nous-mêmes, très souvent. Pareil, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais vraiment dans cette phase de burn-out, après mes 2 premières expériences que j'ai considérées ratées, même si en fait c'était des expériences, c'était pas raté, j'ai appris plein de choses. j'avais des mots, je pense, envers moi-même qui étaient très négatifs, très très négatifs. Et ouais, franchement, c'était un moment où j'étais au fond de tout. Et là, je tombe sur, on va dire une. Je vois dans un film une histoire du pot de riz. Alors, c'est une expérience du pot de riz que voilà, si un jour vous voulez faire plus tard, mais il faut le faire vraiment au bon moment parce que sinon ça ne marche pas. En fait, on fait cuire du riz. On fait cuire du riz. On le met dans deux bocaux qu'on ferme bien. Sur un bocal, on écrit « Je t'aime ». Sur l'autre, on écrit « Je te déteste ». Matin et soir, je prenais le pot de riz et je commençais par celui de « Je te déteste ». « T'es nul, je te déteste », etc. Et je déverse vraiment tout ce qu'il peut y avoir de noirceur à ce moment-là. Et après, je prends l'autre pot et là, je lui développe de l'empathie. « Non, mais en fait, tu fais du mieux que tu peux, bravo et courage, etc. » Au bout de une à deux semaines, et là c'est vraiment, je crée pas l'histoire et tout. Hein. Il y a un pot qui est devenu complètement noir, je te déteste est devenu complètement noir, et l'autre était resté blanc avec des tout petits points. Et là je me suis dit, ça c'est l'impact qu'on a sur notre intérieur en fonction de ce qu'on se dit à soi. C'est-à-dire que si j'ai des mots mauvais envers moi, je crée de la noirceur et de la pourriture à l'intérieur de moi. Donc, arrête ça. Arrête de te parler mal. Développe la partie d'empathie envers toi. On est tous imparfaits, on a tous nos faiblesses. Ce qui compte, c'est faire du mieux qu'on peut. Et voilà. Et donc, je pense que ça, pour tenir dans la durée, être en capacité de pas craquer et de continuer à garder la flamme, avoir cette empathie est les clés.
Et je pense, on voit souvent le problème que c'est juste quand tu as le burn-out, c'est là, ça fait clic. Et j'espère peut-être pour les étudiants que cette self-reflection, ça commence déjà aujourd'hui que, plutôt que juste dans un burn-out, non ?
Bien sûr, moi je sais que cette expérience-là m'a changé. C'est-à-dire qu'en effet, on est dans une boîte, un des mots-clés qui revient beaucoup, c'est le terme de bienveillance. Ça fait partie très fortement de la culture de la boîte. Et je pense que c'est lié au fait que, pas seulement moi, mais on est plusieurs à avoir expérimenté ça. Et on sait en fait à quel point la vie, elle peut être dure. Et que chacun, on n'a pas idée de à quel point chacun de vous a des étapes, enfin, et des épreuves. Et il faut juste avoir en tête que, en fait, la personne en face de nous, elle a des épreuves dont on n'a même pas conscience, comme elle a des épreuves, enfin, comme moi, j'ai des épreuves qu'elle ne sait pas. Et ça, on l'apprend, moi, je l'ai appris the hard way, mais voilà, j'espère qu'il y a aussi une capacité à l'apprendre sans avoir à passer par là.
En dehors des solutions que Change Now développe et diffuse, qu'est-ce que te donne l'espoir qu'un changement est possible ? En particulier quand on voit ce qui se passe avec des phrases comme « drill baby drill » ou les aspects diversité et inclusion aux États-Unis qui vraiment est, qui vont à débours.
Alors, deux choses qui me donnent espoir. La première, c'est que « game is on ». Voilà, ça c'est la première chose. On n'est pas... Il n'y a pas le monde et nous on est à l'extérieur et le monde se passe comme ça. Non, non. On peut jouer nos cartes et on peut jouer dans ce monde-là. The game is on. Et que on a eu, si moi je regarde le monde et je le compare à il y a 10 ans quasiment quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, il y a eu une évolution énorme. L'écosystème de l'impact a grandi, les questions environnementales et sociales ont grandi énormément. Donc même si elles sont en recul, elles sont là. Alors qu'il y a 5 ans, franchement, je parlais d'impact, les gens ils disaient « qu'est-ce que c'est ?» etc. C'est pour ça qu'on avait du mal à trouver du financement. Personne ne croyait et ne comprenait ce qu'on faisait. Donc il y a eu quand même des évolutions fortes. Et moi, je pars du principe que, et si on regarde l'histoire n'est pas linéaire. Elle n'a jamais été linéaire. Il y a toujours eu des hauts et des bas dans les progrès de l'histoire. Et là, voilà, on est en effet dans une vague de creux par rapport au progrès. Mais ce n'est pas linéaire. Et ce qu'il faut, c'est consolider, continuer à garder la base pour pouvoir repartir après vers à nouveau une phase de progrès sur ces questions-là. Donc voilà, game is on. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, on est de plus en plus nombreux. En vrai, je vais enlever le de plus en plus. Je ne sais pas. On est nombreux. On est nombreux à travailler, à faire cette transformation du monde. Voilà, nous, Change Now, c'est juste une toute petite partie de l'écosystème. Il y en a, et là, on le sent, en effet, si on arrive à équiper les différents écosystèmes à travers le monde, bah là, on devient encore plus nombreux. Mais on est nombreux à vouloir faire cette transition.
Et que pouvons-nous faire pour nous engager dans davantage d'activités collaboratives, au-delà des frontières, par exemple, au-delà des secteurs, etc. Dernière question, c'est après. C'est pour vous.
Je pense qu'il y a une vraie question qui est celle du supplément d'âme de nos actions, en fait. Je m'explique. Parfois, on peut travailler en silo sur une thématique. Et en même temps, moi, ce qu'il faut, c'est que vous trouviez, vous, qu'est-ce qui vous anime et que vous arriviez à le mettre un peu sur un méta-objectif. Je dis ça, et voilà, la petite histoire qu'il y a par rapport à ça, c'est les tailleurs de pierre. Il y a deux tailleurs de pierre au Moyen-Âge. Il taille sa pierre, et de là, il y en a. Il pose la question au premier tailleur de pierre. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah là, je suis en train de tailler une pierre. Je suis en train de lui faire un petit angle, une petite sculpture là. Ok. On va voir le deuxième. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de tailler une pierre pour la cathédrale. Voilà. Et en fait, lui, il savait tout de suite pourquoi il faisait ça. Et la question n'est pas forcément est-ce que le travail opérationnel que je fais là est exactement ce que... Pour moi, c'est plus, je reformule un tout petit peu, en ayant ce supplément d'âme, en sachant pourquoi on fait les choses, alors on peut aller un peu sur les différents secteurs, être transverse beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, quel que soit le secteur, ce qu'on sait, c'est qu'on contribue à une mission plus grande. Donc il faut chercher en fait un peu qu'est-ce qui nous anime. Ça prend un peu de temps. Et juste par rapport à ça, justement, point très essentiel. Je pense qu'il y a pour beaucoup ici, soit vous l'avez déjà, soit vous allez l'avoir, un peu ce stress de se dire quelle est ma voie, quel est mon destin, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire ou pas. En fait, il ne faut pas se prendre la tête sur ça. Ce qu'il faut, c'est multiplier ses expériences. Parce qu'en fait, à un moment, l'évidence, elle va venir toute seule. Qu'on aura suffisamment fait d'expériences, il y a un moment, on se dit, en fait, c'est ça. C'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux faire. Et ce sera au croisement des différentes expériences qu'on aura eues. Donc voilà, et là, avant de vous passer... qui a vu le film d'Inox Tag? Là, je suis sûr, il y a plus de mains qui vont se lever. Ouais. Yes, ok. Justement, à un moment, c'est ce qu'il dit. Sortez, ne vous prenez pas la tête, faites des expériences. Ben ça, c'est un très bon conseil. Franchement, faites vos expériences, explorez le monde. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Moi, c'est pareil, en lisant Churchill. Churchill, c'est dingue. Churchill a maximisé ses expériences. Il voulait aller en Inde pour apprendre la guerre, enfin l'art de la guerre. Il va sur un front. Un jour, il arrive pile au moment où le combat se termine. Et lui, au lieu de se dire OK, j'arrête là, non, il prend le train direct pour essayer d'aller sur un autre. En fait, il y a une quête, je pense, pour se construire, à essayer de développer les expériences et à en profiter de chacune d'elles.
La curiosité.
Grande curiosité.
Curiosité. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. On va vous. Même, vous avez des questions aussi sur le balcon, on va donner le micro aussi. Allez-y.
Pour vous, qui a le plus de poids pour vraiment changer les choses entre la population et les institutions gouvernementales?
Très très bonne question. Parce qu'en fait, en plus, il va manquer un troisième élément là-dedans, qui va être la sphère, on va dire, privée, le monde économique. Alors, Change Now s'est créé justement à l'origine en se disant, c'était le constat de la COP21 à laquelle j'étais allé. D'un côté, on avait les grands dirigeants qui essayaient de négocier des accords sur le climat. De l'autre côté, il y avait la société civile et activistes, etc., militantes, qui essayait de faire bouger les lignes. Et en même temps, il y avait un grand vide à l'époque qui était comment est-ce que l'entreprise, l'entrepreneuriat, le monde du privé s'engage. Je me suis dit, on ne va jamais y arriver si on n'arrive pas à plus engager les entreprises. C'est pour ça que ChangeNow a ce côté quand même assez économique. Comment est-ce qu'on engage le monde économique ? Les trois sont clés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les citoyens et la base en gros citoyenne a un vrai rôle de mettre de la pression sur qu'est-ce qui doit changer. En même temps, les politiques, eux, ils doivent justement légiférer dans le bon sens pour ça. Mais en même temps, il y a des coups politiques, etc. Et surtout, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'alternative, c'est extrêmement dur de faire passer une loi. Je prends un cas concret. Sur le plastique. Okay. Sur le plastique, nous, on a eu Brune Poirson qui est venue en 2020 au sommet. Elle avait un enjeu, elle voulait limiter le plastique et notamment tous les microplastiques qui partent dans les machines à laver. C'est-à-dire qu'à chaque lavage, il y a des millions de microfibres plastiques qui partent dans l'eau. Et les industriels disaient, ben non, en fait, ça coûte trop cher, la technologie n'existe pas, vous ne pouvez pas nous imposer ça, etc. À ChangeNow, elle rencontre une solution qui est une solution slovène qui a développé des microfiltres pour garder les microfibres. Elle rencontre la solution, elle dit OK. Une semaine après, elle rassemble les industriels avec cette start-up. Elle dit ne me dites pas que ce n'est pas possible, il y a une alternative qui existe. Donc on va se laisser juste 2 ans, mais c'est un peu plus, mais là en fin 2025, 1er janvier 2025, toutes les nouvelles machines à laver devaient intégrer en France cette technologie-là. Elle a pu faire passer la loi parce qu'il y avait une alternative qui existait. Donc, oui, là-dessus, les entrepreneurs et le monde économique ont un rôle extrêmement important pour développer les solutions qui vont permettre de légiférer plus facilement. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, par rapport à la situation actuelle où on est, et quand il peut y avoir un recul du point de vue politique sur ces questions, l'enjeu et des citoyens et du monde économique. Je ne sais pas si elle prend le dessus, mais elle joue un rôle clé, parce que c'est celle qui tient le cap. Ça répond à ta question ? Ouais.
Autre question ? Oh non ?
Oui.
Mais il va y avoir clairement une recrudescence, je pense, il y a un besoin de plus en plus d'engagement sociétal actuellement par rapport à la situation.
Depuis 3 ans, je trouve qu'il y a un type d'innovation qui prend clairement le dessus sur toutes les autres en termes de médiatisation, qui sont les innovations dans l'intelligence artificielle. Et quand on s'intéresse un peu aux impacts de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'impacts négatifs. Est-ce que vous constatez quand même un progrès positif en termes d'impact dans les inventions et innovations d'intelligence artificielle?
Alors oui, l'intelligence artificielle, énorme boom qui vient masquer beaucoup de choses, parce qu'en fait, à un moment, en fait, faut savoir qu'il y a un marketing de l'intelligence artificielle. Il y a un discours de la Silicon Valley pour montrer que c'est incroyable l'intelligence artificielle. Et donc on essaie de faire fantasmer autour de ce sujet-là pour justement attirer encore plus de financement, de talent, etc. Donc il y a quand même un effet un petit peu de survendre cette intelligence artificielle. Après, je pense qu'on a aussi fait l'erreur, je veux dire le « on », mais c'est un « on » collectif, de dire il y a une nouvelle technologie, c'est génial l'IA, donc on va essayer de l'appliquer à tout. Ça, c'est la grande erreur de l'impact environnemental qui est derrière l'IA. Parce qu'en fait, on se retrouve à demander des choses que Google peut faire pour beaucoup moins d'impact, genre une requête classique, pour 20 fois moins d'impact, je crois, qu'une IA. Mais on essaie de l'utiliser pour tout. Or, en fait, je pense qu'il faut réinverser la chose. On part de l'outil pour voir comment on l'utilise. En fait, il faut qu'on parte des besoins. quel est le besoin qu'on a ? Et en fonction, voir quel est le niveau de technologie qu'on a besoin d'appliquer. Alors, il y a clairement des endroits où aujourd'hui la technologie telle qu'elle était ne permettait pas de répondre aux problèmes et donc l'IA pourrait marcher. Même d'un point de vue environnemental. Admettons que on veut pouvoir accompagner les différents agriculteurs à travers le monde, de savoir exactement quelles sont les alternatives aux pesticides qu'ils peuvent utiliser. Okay. Savoir ça, ça va dépendre de quel est le type de sol, quel est le type de culture, quel est le type de climat, quel est le type d'écosystème autour. Et ça, toujours dans un niveau de granularité assez fin. Aujourd'hui, la technologie classique ne permettrait pas d'avoir ce niveau de personnalisation du besoin. L'IA peut le permettre. Mais là, on part vraiment de quelque chose qui part d'un besoin. Donc ça peut fonctionner. Donc voilà, sans me perdre trop dans cette réponse-là, pour moi, l'idée, c'est faut partir du besoin, pas de l'outil. Donc si vous voulez innover dans l'IA, partez du besoin. Et en fait, ça se trouve, ce ne sera même pas une IA qu'il vous faut, parce qu'en plus, développer une IA, ça coûte hyper cher. Se trouve, vous pourrez répondre aux besoins de manière beaucoup plus rentable autrement. Et voilà, donc, il faut avoir conscience de l'impact environnemental. Il ne faut pas tout jeter non plus, mais ce serait vraiment bien qu'on parte du besoin pour que ce soit utile, des IA utiles surtout. Ouais, ça répond à la question ? Ouais, ça...
Alors, bonjour, ici. Devant vous, juste devant
ouais,
vous.
Super. Merci.
Bonjour, merci pour votre conférence. J'avais une question sur Change Now. Est-ce que vous auriez un ou quelques exemples de projets qui ont vu le jour grâce à Change Now et dont vous êtes particulièrement fier ou qui ont eu un grand impact à travers le monde ? Merci.
Bien sûr. En fait, on a des centaines de success stories chaque année autour de Change Now. Voilà celle de Planet Care, donc cette solution qui va capturer les microfibres plastiques en étude. Et je crois que ça se chiffre en plusieurs centaines de tonnes de microfibres plastiques qui sont sauvées grâce à cette solution-là, sur le périmètre français, du fait que ce soit légiféré. Mais moi, je trouve qu'il y a des autres choses très cool. Moi, une belle histoire que j'aime, c'est celle du fonds. Il y a un fonds d'investissement sur les océans. Qui s'appelle Sven Blue Ocean. Ils sont venus en 2018 à Change Now. En fait, c'était un porteur de projet. Ils venaient avec l'idée de créer un fonds, parce qu'il n'y en avait pas trop à l'époque, il n'y en avait même pas, un fonds d'investissement dédié à l'innovation pour les océans. Et à Change Now, il arrive à signer ses deux premiers millions du fonds. Aujourd'hui, c'est devenu le fonds le plus important dans le secteur. Ça pèse 400 millions. 400 millions d'investissements pour la préservation des océans en privé. Et ça a commencé chez nous à Change Now. Donc ça, c'est une histoire dont on est assez fier, par exemple. Mais je vais justement faire un aparté pour que ça vous concerne, vous. C'est qu'en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, tu sais, c'est moi qui ai dit à Christian de venir à Change Now. Et donc, ça m'a fait dire, c'est dingue à quel point lui, juste en donnant un conseil à un moment à quelqu'un de venir chez nous, a débloqué toute la chaîne d'impact. Et donc voilà, je vous dis ça parce qu'en fait, il ne faut jamais sous-estimer l'impact que vous pouvez avoir dans les conseils que vous pouvez donner, dans les messages, dans ce que vous faites. Les effets de ricochet peuvent être énormes. Et donc, ayez conscience de ça, ce qui veut dire que soyez généreux avec l'impact. En fait, vous ne pouvez pas tout mesurer et savoir si tout ce que vous faites va avoir un impact. Mais quand même, l'expérience montre qu'il y a toujours une suite à ce qui se passe très souvent. Et donc après, chaque graine pousse. Voilà. Après, on a eu plein de deals qui se sont faits, hein, par exemple, l'Occitane qui a travaillé avec Jean Bouteille. Jean Bouteille, c'est une entreprise qui fait de la consigne. Entreprise française, et grâce à l'Occitane, ils ont réussi à développer la consigne dans 17 pays. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre d'exemple. Et tout mis bout à bout, en effet, il y a des changements assez intéressants et importants.
Merci. Il y a une question
Oui, juste en haut. Est-ce que durant votre parcours entrepreneurial, vous avez eu la problématique de économie, écologie, ça ne fonctionne pas, vous n'y arriverez pas ou autre ?
Oui, dès le début. Parce qu'en fait, ChangeNow a été créé comme une SAS. Donc c'est une entreprise qui porte ChangeNow. Et c'est vrai qu'à l'origine, tout le monde disait il faudrait que ce soit peut-être une asso, c'est plus facile de trouver du financement, etc. Bon, là, le fait est que on est des entrepreneurs à l'avoir créé. Donc on sait créer, on sait plus gérer des entreprises que des assos quelque part. Et surtout, ça faisait partie du message. On n'a pas besoin, on peut être un acteur économique et en même temps avoir de l'impact. C'était le message qu'on voulait avoir dès le début. Et aujourd'hui, ça se reflète bien. Hein. On a démarré en effet de juste une idée. Il y a 60 personnes impliquées, 40 à temps plein. Donc on fait vivre quand même pas mal de monde. Économiquement, ça fonctionne. Donc on arrive à prouver ça à travers cette idée, cette histoire. Pardon. Et puis après, ChangeNow, justement, les 1000 solutions qui sont là et les investisseurs qui viennent portent tous cette conviction qu'on peut allier les deux. Et pour beaucoup, c'est la preuve qu'on peut allier les deux. Après, je dirais, comme dans tout secteur, oui, il y a des boîtes qui se retrouvent à ne pas fonctionner et à fermer. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit plus que dans un écosystème, enfin que dans l'entrepreneuriat en général. Donc en fait, souvent même, les entreprises de l'impact ont plus de résilience parce que, en fait, mues par la mission, les personnes restent plus longtemps à tenir le projet, les investisseurs restent plus fidèles. Ça a été aussi vu pendant le Covid. Pendant les années Covid, les entreprises qui ont gardé le plus le soutien des investisseurs, ce sont celles qui portaient une mission. Donc voilà, il y a plein de manières d'allier ça. Et puis après, même en termes de RH, aujourd'hui, nous, on n'a vraiment pas de problème à recruter. Pourquoi ? Parce que cet impact drive énormément de très bons talents. Donc pareil, c'est un avantage RH pour une entreprise.
Moi, j'aurais juste une question par rapport, quand on parle de problématiques liées au changement climatique, ce sont des problématiques qui touchent le monde entier. Comment on fait pour proposer des solutions qui sont globales, mais qui prennent quand même en considération les spécificités culturelles de chaque pays, en fait ?
Alors là, on pose la question, en effet, de si on la dévie un tout petit peu, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent résoudre le problème en entier ? En fait, on est dans un monde complexe, avec les particularités géographiques, les particularités, plein de particularités économiques, etc. Et on a souvent tendance à vouloir trouver une solution qui va couvrir l'ensemble du problème. En disant, c'est ça le game changer. Si on fait ça, ça va régler tous nos problèmes. On prend l'énergie. À un moment, on se dit, en fait, il suffit que toutes les voitures passent à l'électrique et on a réglé le problème. En fait, la réalité est un peu plus complexe que ça. Si on veut vraiment bien faire les choses, on peut se rendre compte qu'il y a des secteurs qui, en effet, sur la mobilité lourde, l'électrique, ça ne va pas marcher. Il faut développer de l'hydrogène, par exemple, ou du méthane, etc. L'électrique, c'est bien pour certains endroits, certaines régions. Par exemple, ce n'est pas bon de faire de l'électrique, ça ne sert à rien de faire de l'électrique dans un pays où l'énergie est encore sur le charbon. En fait, l'électricité est ultra carbonée, il n'y a pas de bénéfice. En fait, ce qu'il faut, c'est apporter plus d'intelligence dans le mix énergétique qui va faire la bonne solution. Et ça, c'est vrai pour tout. Et donc, moi, je voulais en venir au terme de scaler. En fait, on parle beaucoup de... On veut des choses qui scalent, qui passent à l'échelle, etc. Alors, scaler, c'est bien pour certains modèles, mais aussi, ce qu'il faut, c'est juste des choses qui puissent être répliquées. Quand tu répliques, ben là, tu peux adapter au territoire. Donc, la réplicabilité est aussi un modèle extrêmement puissant en termes d'impact. Il ne faut pas partir du modèle du côté on veut tout scaler. En fait, juste des choses qui peuvent être réplicables peuvent avoir un impact énorme. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et voilà, et après, il y a une question, ça va avec la question d'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tout changer, mais on peut contribuer sur certaines géographies, sur certaines solutions. Et voilà. Et ayons juste l'humilité de contribuer à notre mesure là-dessus.
Du coup, vous avez le statut d'entreprise, mais du coup, comment vous faites du profit ? Où est-ce que vous trouvez l'argent pour payer vos équipes et vous payez vous ? J'ai du mal à comprendre en fait où est-ce que vous trouvez cet argent.
Okay. En fait, c'est un modèle principalement, le gros de notre activité, le modèle économique, c'est celui de l'événementiel. Donc on a des partenaires entreprises principalement, le privé très peu, enfin le public, pardon, très peu de financement public, mais avant tout des entreprises qui viennent financer l'événement. Puis après, il y a un peu de billetterie, légèrement, c'est de la contribution. Et puis après, les exposants, les 1000 solutions, qui elles aussi, c'est de la contribution. Mais le gros vient finalement de financement d'entreprise. Et qui après permet d'avoir de la marge. C'est ça aussi le but, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir nous porter nos actions pro bono, comme le classement. Le classement, il y a zéro business model, on le fait juste parce qu'on sait que c'est hyper important d'améliorer, on dirait, de transformer l'éducation. Voilà, il y a plein d'actions comme ça qu'on peut faire pro bono à côté.
Bonjour, merci pour votre conférence. Je voulais savoir, vous parliez au début de la conférence donc de l'importance de l'entourage. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel moment de votre projet vous avez besoin d'agrandir vos équipes et quelles ont été les erreurs, si vous en avez fait, dans le recrutement et qu'est-ce qui est important dans le choix de nos collaborateurs ou de notre équipe? Merci.
Merci pour cette question. Donc oui, l'entourage. Je disais tout à l'heure, en fait, le plus important, c'est de trouver la première personne qui va venir avec vous dans le projet. Il faut avoir en tête que c'est le moment aussi où le saut quantitatif de l'équipe est le plus grand. C'est, en fait, c'est un plus 100% de ressources avec une seule personne. Donc il faut bien choisir cette personne-là. Moi, j'ai eu la chance, donc on l'a créé avec ma femme, en fait. Donc ça pose plein de questions peut-être sur les questions d'entrepreneuriat en couple, etc. Nous, franchement, ça a été un facteur clé de succès. Et pourtant, on ne s'était jamais dit avant, on va créer une boîte ensemble. Elle ne voulait ni être entrepreneur, ni dans l'événementiel, et elle ne voulait pas qu'on bosse ensemble. Voilà. Mais finalement, ça s'est fait tout naturellement. C'est parce que le projet a montré cette complémentarité qu'on s'est dit, bah, en fait, vas-y, on continue. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, on a eu un troisième cofondateur qui arrivait un peu plus tard, que j'avais rencontré à l'INSEAD et qui lui portait on va dire un complément, une vraie complémentarité qui était un vrai côté business. Et donc la volonté d'emmener ça sur un territoire auprès des grands dirigeants, etc. Donc voilà, au début, on avait ce trio. Et puis au fur et à mesure, on a prend quelques apprentissages côté RH. Notre premier recrutement, c'est toujours difficile, même pour cette personne-là. On appelle ça le syndrome du premier employé. On a pris quelqu'un qui avait vraiment l'envie, qui n'avait pas forcément les compétences pour, mais qui était couteau suisse, qui était prêt à dire un peu en mode commando. Dis-moi ce que je fais, je le fais. Et on a besoin de ça au début. Mais au fur et à mesure qu'après, on commence à recruter les autres personnes, qu'elles se spécialisent, son périmètre devient de plus en plus réduit. Et arrive ce qui doit arriver, ce qui est une des choses très très dures, parmi les plus dures à faire, c'est à un moment, elle a plus forcément sa place. On avait essayé plein de choses, et pour elle non plus, ça ne marchait plus, donc on s'est séparés. Après, pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train de revenir maintenant, X années plus tard, parce que justement, elle, ses compétences ont évolué, ça recolle, etc. Donc voilà, ça c'est cool. Mais voilà, à un moment, les personnes qu'on recrute au début ne sont plus les bonnes personnes pour poursuivre. C'est dur à entendre. Ça a été vrai pour nous, malheureusement, sur la première recrue. Puis après, oui, on recrute sur des spécialités, surtout à partir du moment où il faut créer des équipes. Le management prend beaucoup de temps, donc il faut réussir à trouver du management intermédiaire, donc le directeur commercial, enfin communication, etc., pour gérer toute l'équipe. Et là, on a fait quelques erreurs au début, celui de se dire « Waouh, son CV, il a l'air canon, ses expériences ont l'air géniales », et on se fait un peu bananer par le bling-bling la chose en se disant de toute manière il va réussir à s'acculturer, et en fait non. La question de culture est la première raison pour laquelle les personnes qu'on a recrutées ne restent pas. Alors c'est pas beaucoup, hein, mais les quelques cas justement où finalement il y a du départ, c'est parce qu'en fait, le recrutement sur la culture d'entreprise n'était pas la bonne. Donc voilà, culture d'entreprise avant les compétences, parce qu'après les compétences, on peut aussi en apprendre, on peut les apprendre, alors que s'adapter à une culture, c'est plus dur, et ça peut faire plus de dégâts en interne.
Bonjour, avant ChangeNow, quelles leçons avez-vous tirées de vos premières expériences entrepreneuriales ?
En fait, il y a beaucoup de leçons, puisque là, j'en ai partagé énormément. En fait, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est les questions de... voilà, ça m'a appris beaucoup d'empathie envers moi-même. Ça m'a appris plein de choses par rapport au fait de ne pas partir seul. Je dirais qu'après, en fait, ça apporte une vraie humilité sur la réussite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne va pas réussir à faire. Et pour autant, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Une des choses qui m'a aussi pas mal aidé par rapport à ces premières expériences, bon, je ressors mes phrases de culture pop, phrase de Slimane, la philosophie de Slimane, qui disait en fait, il y a des destins qui se font et des destins qui ne se font pas, mais ça n'en enlève rien au talent de chacun. Et pour moi, ça a été aussi clairement voilà, un apprentissage par rapport aux premières étapes. C'est-à-dire que, le fait qu'on n'ait pas réussi, que je n'ai pas réussi à faire ma première boîte, que je n'ai pas réussi à faire mon premier job, etc., n'enlève rien à sa valeur à soi, en fait. Et en prendre conscience, ça a été c'était une des clés pour après se permettre de dire « Allez, vas-y, on se relance dans un truc qui a l'air complètement fou, mais je sens que si on y va avec la bonne intention, la clarté de l'intention, avec la bonne énergie, si on va au bout du truc, on peut y arriver. »
Alors, bonjour, merci pour votre conférence. Moi, j'aurais une question toute simple. Est-ce que l'école de commerce vous a amené à mieux développer votre esprit entrepreneurial, et si oui, comment ?
J'avais la discussion juste avant d'entrer sur scène sur l'apport des écoles de commerce. Alors moi, l'école de commerce m'a énormément apporté. Pas tant techniquement. Alors techniquement, oui, j'ai adoré. Je suis rentré dans les bouquins de finance que j'ai dévoré, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai adoré ça. Donc techniquement, on apprend des choses. Mais le gros, que ce soit dans ma première expérience donc à l'EM Lyon ou ma deuxième à l'INSEAD, c'est pas techniquement que j'ai progressé, c'est envers moi-même. C'est un vrai cheminement perso. On prend conscience que on est tous différents, que chacun a des forces et des faiblesses. C'est là où j'ai appris le côté, en fait, il faut travailler sur ses forces et pas forcément passer son temps à bosser sur les faiblesses pour pas rester juste médiocre dans les faiblesses. Et si on est excellent, c'est des choses qui... je pense qu'il faut se laisser porter par l'expérience, par les rencontres. En fait, vous avez beaucoup à apprendre des expériences entre les uns et les autres. Mais c'est, pour moi, ça a été les années, je disais, j'ai grandi avec mes amis d'enfance, mais je suis devenu adulte avec mes amis de grande école. Et donc, voilà, il se passe une mue, quelque chose, il faut juste prendre le temps de vivre l'expérience sans se prendre la tête dessus, en fait.
Bonjour. Au vu du fait que la politique prend de plus en plus d'importance dans les décisions internationales, est-ce que vous pensez que les organisations à l'échelle étatique ou internationale sont aujourd'hui obsolètes et que les entreprises privées sont devenues aujourd'hui les seules capables d'impulser un changement durable, ou qu'à l'inverse, les deux doivent être combinés, sans quoi un changement durable ne pourra pas se mettre en place ?
Alors, si on veut faire un changement durable, il faut que tout le monde avance. Ça, c'est sûr. Alors, oui, il y a une phase de géopolitique extrêmement importante actuellement. Ce qui va justement reboucler sur quelque chose, qui est qu'en fait, nous, on a souvent tendance à considérer les choses du point de vue du court terme et de ce qu'on connaît là. Mais il y a des forces, en fait, il y a des cycles courts de l'histoire et des cycles longs. Enfin, plus que des cycles, on va dire des ondes. Il y a une fréquence longue. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un, un pote, qui me dit « Ouais, il travaille en Allemagne. » Et il me demande « Est-ce que tu penses que je dois revenir en France ?» Je dis, bah écoute, si ton point est de se dire, est-ce que je viens en France parce que je ne sais pas exactement si le gouvernement va changer, les côtés un peu politiques françaises actuellement, je pense que tu fais un peu fausse route. Ce qui va déterminer le plus si tu dois revenir en France ou pas, c'est le cycle, les ondes longues de l'histoire et donc plus la géopolitique. Parce qu'en fait, remaniement ou pas, ok, fine, mais ce qui peut se passer, c'est développement encore un peu plus des guerres, c'est renforcement de la crise climatique, c'est crise économique, des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Okay. Donc en fait, il faut déjà prendre conscience de l'impact de ces temps longs, de ces cycles longs. Là, on en est en plein dedans, et donc ça veut dire qu'il faut faire preuve de résilience, il faut continuer à avancer. Les entreprises, en fait, c'est intéressant parce qu'il y en a certaines qui vont continuer à faire le travail, d'autres qui vont se ranger dans le sillage politique et du ralentissement aussi là-dessus. Le ralentissement, il n'est pas vrai partout. Il est très vrai, par exemple, aux États-Unis, l'Europe, quand même pas mal, mais la Chine, pour l'instant, n'ont pas changé leur transition écologique, leur plan de transition écologique. Bref, tout ça pour dire que c'est une question hyper large sur laquelle je pense qu'il faut que tout le monde, et en l'absence de pouvoir politique qui avance plus là-dessus, les entreprises ont un rôle à jouer, comme les citoyens, etc. Peut-être juste pour te donner un élément plus concret là-dessus. Pour avoir un impact systémique, pour changer la société, tu as besoin de trois acteurs, de manière générale. Il y a besoin d'agitateurs, il y a besoin d'innovateurs, il y a besoin d'orchestrateurs. Ça peut jouer au niveau des citoyens, au niveau des entreprises, des politiques, tout, ça concerne tout le monde. En fait, tu as besoin d'agitateurs. Et on va prendre un cas concret, l'affaire pour tous, Camille Etienne, plein d'autres comme ça qui mettent le doigt sur des choses qui ne vont pas. Ils viennent pas forcément avec les solutions, mais ils viennent avec les choses qui ne vont pas. Et leur but, c'est de faire monter leur rôle, c'est de faire monter un peu la pression sur ces enjeux, apporter de l'opinion publique, apporter du média et du poids à ça. Les innovateurs, ils ont le rôle de dire en fait, voilà, on crée les alternatives. Voilà ce qu'on peut faire comme solution et être force de proposition. Et même si on a que les deux, on se rend compte qu'en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire le changement. Après, il faut quelque chose de plus stratégique, ce qu'on appelle les orchestrateurs, qui vont dire, OK, on a de la base, on a de la force de la base, on a des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on aligne les intérêts entre les uns et les autres pour qu'on ait la masse critique de faire ce changement? Et ça, c'est point hyper important de systémique. Désolé, la réponse est hyper longue, mais je construis un peu dessus. Point hyper important de changement systémique. Un système a son système immunitaire. Il a des protections. Et si on avance trop tôt pour changer l'ADN, enfin si on va trop tôt en phase de ce changement pour faire ce changement systémique, le système dit « Ok, stop, immunité, on se protège, on tue le projet ». C'est pourquoi, en fait, un projet de changement systémique, il faut le travailler d'abord dans une sphère de confiance assez petite, sans que, finalement, l'ADN... enfin, en tout cas, sans qu'il y ait une réponse immunitaire tout de suite. Attendre qu'on ait la masse critique. Parce qu'à partir du moment où tu as une masse critique de personnes engagées dessus, que, par exemple, tu commences à avoir orchestré ça pour que tu aies des relais politiques qui disent « bah en fait, ouais, ces idées-là sont pas mal », que tu as le pouvoir, la puissance médiatique pour faire basculer les choses, alors là, on peut déclencher le changement, mais il faut y aller, quand on est prêt.
Un gros merci à Santiago pour partager ses expériences.
Merci à vous.